une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de votre histoire du week-end, Lénora Krief et François Test vous ont raconté l'incendie du bazar de la Charité. Le 4 mai 1897, c'est l'un des rendez-vous mondains le plus attendu de l'année. Le bazar de la Charité s'est installé sur un terrain vague de la rue Jean-Goujon, proche des Champs-Élysées, de l'autre côté du pont Alexandre III. C'est un festival de voilettes, robes, plumes, soies, venu découvrir une reconstitution en bois d'une vieille rue de Paris dans un décor médiéval. Mais surtout, hommes, femmes et enfants viennent découvrir une nouvelle attraction, le cinématographe. En une seconde, le drame éclate. L'incendie est sauvage, brutal et surtout ravageur, comme vous allez le découvrir tout de suite dans ce second épisode.
Le bazar de la Charité, une fin de siècle enflammée. Par Lénora Krief et François Test.
À terre, sur des planches, enveloppées dans des draps blancs, une longue litanie de corps affreusement carbonisés s'aligne en bordure des cloisons, pendant que chapeau bas, le mouchoir sur les lèvres, des parents, un frère, un mari, un père, viennent rechercher sur ces cadavres informes, tout de grâce et de charme il y a quelques minutes à peine, un signe, un bijou, un objet vulgaire clé ou bourse qui permettent la reconnaissance. L'odeur qui se dégage là est épouvantable. La douleur des êtres frappés est horrible.
Un quart d'heure à peine après le début de l'incendie du bazar de la Charité, tout est consumé. Le hangar n'offre plus l'aspect que d'un amoncellement de poutres et de bois calcinés, mêlés de cadavres atrocement mutilés et carbonisés. Parmi les victimes les plus illustres, la duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi. 120 victimes sont recensées, dont 118 femmes. La presse populaire glorifie les sauveteurs et ironise sur les chevaliers de la pétoche. La journaliste féministe Séverine titre son article en une de l'Écho de Paris du 14 mai 1897 « Qu'ont fait les hommes ?». Cet incendie mémorable s'offre à l'historien comme un catalyseur. La réaction qu'il provoque dans la société de l'époque révèle sur celle-ci des réalités profondes brutalement mises à nu. Le journal, et spécialement le quotidien qui est à son apogée à la fin du 19e siècle, amplifie l'événement jusqu'au moindre village.
Bruno Fulini, comment vous expliquez l'émotion et l'effervescence dans la presse autour de cet événement ?
Alors, c'est un événement peu banal, par son ampleur, hein, on dépasse les 120 morts, c'est beaucoup, et aussi par la qualité des victimes. Alors, contrairement à une idée reçue, les dames de l'aristocratie ne sont pas majoritaires, mais enfin, 40% des victimes appartiennent quand même, non seulement aux plus grandes familles de France, mais en fait d'Europe. Hein. La presse va vite constater que toutes les cours d'Europe sont endeuillées par cette catastrophe. Il y a une cousine de l'empereur d'Allemagne, il y a la duchesse d'Alençon, donc sœur de l'impératrice d'Autriche, il y a une cousine du Lord Maire de Londres. C'est l'Europe entière qui est frappée par cet incendie et par les conséquences de cet incendie. Et donc, les crieurs de journaux, bien sûr, sont tout heureux d'avoir une catastrophe à annoncer. Et on a des colonnes entières d'hommages aux victimes, de circonstances, à la fois sur l'incendie et puis sur les sauveteurs et sur tout le travail macabre qui est fait avec les restes mortels des victimes.
Le fait que les femmes aient été les victimes principales du drame a illustré ce qu'on pourrait appeler la guerre des sexes. En effet...
Michel Vinocq, historien.
Bien sûr, il y avait parmi les visiteurs beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais néanmoins, beaucoup d'entre elles étaient accompagnées par des hommes, leurs maris ou autre chose, leurs amis. Or, on a tout de suite relaté la façon dont les hommes, en général, se sont comportés d'une manière brutale, pour se frayer un chemin vers la sortie, l'étroite sortie du bazar, et comment, à coup de poing ou à coup de canne, n'est-ce pas, ils ont renversé des femmes, ce qui a provoqué dans la presse républicaine des surnoms tels que les francs-fileurs du grand monde, un Azincourt féminin, les royales fuyards, les barons d'Escampettes, les chevaliers de la frousse. Enfin, vous voyez, il y a tout un vocabulaire et aussi des anecdotes sur la lâcheté des hommes présents, leur cynisme, leur férocité.
Le baron Macaulay.
Archivina, aïe, aïe, aïe. 1956.
Ça a été dit dans les journaux que, avec sa canne, il a tapé de droite et de gauche, il s'est frayé un passage et il s'est sauvé.
Oui, mais j'essaye de savoir la vérité, ne croyant pas toujours ce qu'écrivent les journaux. C'est pourquoi je me permets de vous demander si vous, quelques témoins...
Je vais vous dire, moi je l'ai entendu aussi raconter par des clients.
Oui.
Maintenant... Après, il s'est sauvé et il était dans le bazar. Ça, tout le monde pouvait le dire. Il était au bazar.
Il a dû être plutôt mal vu après ça.
Je crois qu'il a dû être obligé de quitter la France.
Ah oui, ah oui.
La France.
Oui, oui, la France.
Mais il devait y avoir pas mal de messieurs, parce que
ah,
ça, à cette époque-là, c'était très élégant.
Tous les hommes élégants étaient
là. Ils avaient tous des cannes.
Et
des cannes et chapeaux
haute
forme.
Ils avaient tous des cannes et des chapeaux haute forme,
naturellement.
Bien sûr.
Et les et femmes dans, avaient des robes à traîne.
C'est vraiment celui-là de qui on a parlé. C'était effrayant de penser ce qu'il avait fait. Car il s'est frayé un passage en tapant comme ça de droite et de gauche. Il n'y a que comme ça qu'il est arrivé. Il a sauté sur ça, n'est-ce pas ? Parce qu'à la porte, il y avait une montagne de cadavres, les unes sur les autres, les malheureuses, qui n'étaient pas brûlées, qui ont été étouffées.
C'était des gommeux, la fleur à la boutonnière. C'était des gommeux qui n'étaient pas valeureux. Faisant les généreux près d'une riche héritière, faisant les généreux la lâchèrent comme des foireux. Ces joyeux fêtards de notre aristocratie, ces joyeux fêtards en vrais chevaliers fuyards, se sont éclipsés, frappant comme à l'écurie, se sont éclipsés en piétinant les blessés. Conspuez les snobs, conspuez les snobs, conspuez, conspuez les snobs, conspuez les snobs, conspuez.
Très vite, la presse s'étonne aussi que les hommes de l'aristocratie se soient tirés indemnes de l'incendie.
Oui, il suffit de décompter les victimes connues pour se rendre compte que, au fond, on ne trouve que 7 hommes sur les 130 victimes, et c'est très peu. 7 hommes, dont 2 enfants, dont 2 vieillards. Que sont devenus ces jeunes gens avantageux qui étaient là en pleine parade nuptiale ou prénuptiale? Et c'est Séverine en particulier, la polémiste proche de Jules Vallès, qui allume un petit peu le torchon en disant « mais ces messieurs sont sortis en passant sur les dames, en leur tapant dessus à coups de canne et on est assez choqués. Il va y avoir des caricatures, des chansons, on va brocarder le baron d'Escampettes. C'est véritablement le discrédit qui est jeté sur l'aristocratie. »
Quelle est la place de la femme dans l'aristocratie à la Belle Époque ?
L'aristocratie, la bourgeoisie, parce qu'on peut dépasser même l'idée que ce serait seulement la noblesse qui aurait cette conviction, je dirais que l'ensemble de la société masculine voit d'un œil assez inquiet l'émancipation des femmes. Il y a eu la création des lycées de jeunes filles. Voilà des femmes qui ont désormais le baccalauréat, qui prétendent faire des études, qui veulent devenir médecin ou avocat. Et tout cela se fait soit sous les quolibets, la dérision des journaux et des groupes masculins, parce que reste cette idée, cette conviction forte que la vocation de la femme, c'est la famille. Élever ses enfants, protéger les siens, elle n'a pas de vocation publique. Elle ne vote pas, elle n'est pas éligible, naturellement. Et au cours de cette période, une période qui s'est libérée avec l'émancipation de la presse, la liberté de la presse, les femmes prennent peu à peu une importance qu'il aurait contestée.
Et c'est aussi pour cette raison que cet incident a eu un écho particulier à cette époque.
Oui, certainement, le lien qui est fait entre la femme et la mort, la beauté et l'enfer, tout ça sont des thèmes artistiques, littéraires, qui forment un contexte, si vous voulez, culturel à cet événement.
On a dit, et la lumière se fera sûrement, que plusieurs femmes ne furent blessées que par eux qui faisaient le moulinet avec leurs cannes ou encore avec des bouteilles de champagne, assommant les infortunés qui les gênaient dans leur fuite éperdue. On leur a appris la gymnastique, ils en profitaient, les drôles, pour escalader des monceaux de corps parmi lesquels pantelaient, encore vivantes et sauvables peut-être, leur mère, leur petite sœur, leur fille, qui sait, celle aussi avec qui 5 minutes avant ils flirtaient. Que les remords et le mépris seuls punissent ces misérables. Mais en face de leur basse infamie, élevons la gloire de ces hommes du peuple, ouvriers, gens d'écurie, domestiques, qui furent des héros et de sublimes confesseurs de la fraternité.
Bruno Fulini, historien.
Il faut bien voir qu'il y a une dimension politique. Ces monarchistes, ces catholiques qui ont voulu montrer les vertus de la charité contre la fraternité républicaine, finalement, se retrouvent pris en défaut. D'abord, des organisateurs qui n'ont pas pris les précautions qu'ils auraient dû prendre. Ensuite, pas de héros chez les jeunes gens présents au bazar, bien au contraire. Et les héros du jour, ça va être un cocher de fiacre qui, au péril de sa vie, va arracher une dizaine de personnes des flammes. Ça va être un plombier exemplaire, puisque non seulement il va sauver des gens, mais ensuite il va reprendre son travail. Et son patron, voyant qu'il a les mains boursouflées, le visage rouge, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il ne veut même pas dire ce qui s'est passé. Il a peur de se faire renvoyer parce que il a en quelque sorte abandonné son travail pendant quelque temps. Il y a même un vidangeur de fausse d'aisance. Donc là, on est au plus bas de l'échelle sociale. Ce sont ces citoyens-là, des travailleurs manuels vraiment de la plus basse condition, qui ont sauvé les duchesses, les marquises, les baronnes, les grandes dames. C'est à ces hommes-là, et non aux jolis godelureaux bien habillés qui paradaient avec elles, eh bien qu'elles doivent d'avoir la vie sauve.
J'ai vu retirer des décombres une femme tenant enlacée dans ses bras une jeune enfant. Les deux corps étaient presque carbonisés, mais les têtes, serrées l'une contre l'autre, si étroitement qu'on ne pouvait pas les disjoindre, étaient éclairées par des yeux grands ouverts, d'une fixité effrayante. Ça et là, jambes arrachées du tronc, bras saisissant une planche et y restant attachés sans qu'on puisse retrouver le corps auquel il appartenait. Dans un coin, 4 femmes et 1 vieillard dont les flammes ont à peine entamé les vêtements et qui ont été étouffées, asphyxiées en tas. On retrouve sur eux des carnets, des papiers. On peut les identifier.
Il y avait aussi un goût à cette époque pour une littérature assez sulfureuse.
Peut-être ici, ce qui nous frappe, c'est la fascination pour le macabre. Et cette fascination s'exprime dans les journaux, ne reste pas l'énumération détaillée des dépouilles, la liste des ossements retrouvés, les descriptions horribles, et puis même, nous sommes dans une période scientifique, n'est-ce pas, la statistique minutieuse des débris. Il y a question dans ces journaux, dans ces récits, de femmes nues, au cou desquels on aperçoit des médaillons de piété, de cadavres entièrement nus, sauf une bottine et un bracelet, d'abominables mutilations, des corps décapités, des crânes scalpés, des entrailles qui se répandent, je crois tout un descriptif qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui. Alors en plus, il y a alors les scènes de reconnaissance. Les familles cherchent à retrouver les dépouilles. Et alors là, on assiste à des scènes extraordinaires, par exemple l'arrivée des dentistes qui cherchent dans les mâchoires tel ou tel plombage pour identifier la victime, ou encore des chirurgiens qui cherchent des traces d'opérations. Les familles recherchent aussi dans les débris les dessous féminins, les boutons de jardelle, les lambeaux de cache-corset, des morceaux de jupons. Ce sont des scènes de grand guignol. Alors, toute cette presse morbide, nécrophile, on peut dire, fétichiste, qui se réclame, attention, de la science, en même temps que de l'amour du genre humain, eh bien, toute cette presse, on pourrait dire qu'elle favorise, sans le savoir, l'assimilation de la femme et de l'enfer.
Archivina, 1956.
Vous n'imaginez pas le deuil que ça a été dans Paris, le nombre de familles qui ont été touchées. Et alors, en plus de ça, il y a eu des drames conjugaux extrêmement singuliers. Parce que quelques dames avaient dit à leur mari qu'elles allaient au bazar de la Charité.
Aïe, 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 aïe.
Sont rentrées à 8 heures fort gaillardes, fort plaisantes, fort gaies, toutes roses. Et quand le mari a dit alors d'où viens-tu, elles ont dit je viens du bazar de la Charité.
Il dit, c'était charmant, extrêmement gai.
Mais comment donc ? Quelle bonne journée, quel bon après-midi j'ai passé.
Brûlé de plus de feu que j'en ai vu.
Ça, c'est du mot passant. Hein.
Comme disait un de nos témoins, dans les pires des drames, il y a toujours un côté de comédie.
Il y a eu de nombreux débats sur les négligences de l'État en termes de sécurité. Il paraîtrait que le bazar ait modifié vraiment les conditions de sécurité par la suite dans les salles de spectacle.
Oui, on se rend compte qu'il faut quand même faire attention. Donc il va y avoir à Paris deux ordonnances du préfet de police, l'une dès 1898, une autre plus tardive en 1906, qui vont exiger un certain nombre de précautions, en particulier que les décors soient inifugés, par exemple. Et par ailleurs, on va se poser la question du cinématographe. Comme c'est l'appareil de projection qui a déclenché la catastrophe, il s'en faut de peu qu'on interdise purement et simplement le cinématographe, d'autant qu'il y a eu d'autres incendies de plus modestes proportions à la même époque liés à des appareils cinématographiques. Et donc les frères Lumière doivent monter au créneau pour dire mais pas du tout, ce n'est pas le cinématographe qui est dangereux, ce sont ces appareils à éther, ces appareils Molteni, il faut utiliser des projecteurs électrique. Et donc c'est de cette époque-là que date la généralisation des projecteurs électriques, mais le cinéma a failli disparaître à la suite de cette catastrophe.
L'antisémitisme, qui n'avait aucune raison apparente de se manifester dans cet épisode, a finalement ressurgi avec un don anonyme.
L'antisémitisme hante vraiment la fin du siècle. Depuis les années 1880, on connaît une vague d'antisémitisme qui a de multiples aspects, à la fois religieux, ça c'est l'antisémitisme médiéval, traditionnel, économique, social, et même ethnique. Raciste, par conséquent, cela existe effectivement. Le grand pape de cet antisémitisme, c'est Édouard Drumont, qui a écrit La France juive en 1886, qui décrivait prétendument l'invasion de la France par les juifs. Et il a eu un tel succès qu'il a pu fonder un journal, un quotidien, La Libre Parole, qui n'a pas cessé de nourrir la veine antisémite et qui sera un des journaux les plus lus de la prochaine affaire Dreyfus qui est entamée en 1897 et qui va véritablement éclater en 1898. Alors qu'est-ce que l'antisémitisme vient faire là-dedans ? Apparemment, le bazar de la charité n'est pas une ni une création des juifs ni un attentat commis par des juifs. Oui. Mais le Figaro, le journal Figaro, a cru bon de lancer une souscription pour compenser les pertes, évidemment, dues à l'incendie, et pour remettre cette somme de la souscription aux organisateurs du bazar.
Et parmi les dons, il y a un don colossal de près d'un million de francs de l'époque. Nous sommes en francs or, donc c'est une somme colossale. Et la rumeur l'attribue à la baronne Hirsch, ce qui va faire grincer des dents, là également dans les milieux un peu réactionnaires. Et en particulier, un polémiste qui s'appelle Paul de Cassagnac, qui est proche des bonapartistes, va publier une tribune qui s'intitule tout simplement « Trop de juifs », avec l'idée que ça ne suffit pas aux juifs d'être très très riches, il faut en plus qu'ils empiètent sur les prérogatives de l'aristocratie en faisant montre d'une charité exagérée. Parce que la charité, évidemment, pour un chrétien, ça doit être discret. Il ne faut pas que ce soit ostentatoire. Sauf que ce million vient pas du tout de la baronne Hirsch. Elle a donné de l'argent, elle a donné 25 000 francs, ce qui est déjà beaucoup. Il vient de Madame Le Body, qui est malheureusement une égérie du nationalisme. Donc c'est une polémique qui va retomber, mais elle est intéressante parce qu'elle montre que l'antisémitisme est déjà présent dans la presse et dans la politique de l'époque, avant le rebond de l'affaire Dreyfus qui va intervenir au début de l'année 1898.
Le 8 mai 1897 se tient une cérémonie commémorative à Notre-Dame. Et c'est le révérend père Olivier, c'est un dominicain, qui est chargé de l'homélie. Et cela, qui va faire scandale auprès d'un certain nombre de républicains, en présence du président de la République, Félix Faure. Le père Olivier, qui est un moine très enflammé, très passionné, saisit l'occasion pour dire en gros que ce drame, il n'est pas dû au hasard, il est de la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Parce qu'il a voulu donner une leçon à l'orgueil de ce siècle, où l'homme parle sans cesse de son triomphe contre Dieu.
Ô Dieu de la France catholique, Dieu que nous appelons notre Père, à la tendresse duquel nous croyons autant qu'à sa justice, vous n'êtes point capable de ces fureurs, et vous ne nous défendez pas de soulever le voile qui couvre nos épreuves. Votre main nous frappe dans un dessein qu'il nous est permis de comprendre, afin de nous y associer librement et de donner à nos pleurs le prix dont se paie notre rentrée dans la miséricorde.
Cette cérémonie qui aurait pu être très œcuménique et finalement manifester une forme d'union nationale dans la douleur et le recueillement va mal tourner à cause d'un individu, un prêtre, un dominicain qui monte en chaire c'est le père Olivier qui est un vieux prêtre royaliste qui a l'occasion enfin de faire entendre tout ce qu'il a sur le cœur. On n'a pas tous les jours le président de la République comme ça sous la main tenu au silence, car le président de ne pourra pas répondre, bien sûr, aux prêtres qui montent en chaire. Et donc, il commence un petit peu à la Bossuet, par des réflexions sur la mort et l'injustice de la mort, ou son injustice apparente, mais pour expliquer qu'en fait, ces femmes qui ont péri, car ce sont essentiellement des femmes, sont les victimes expiatoires de l'orgueil d'un siècle. Un siècle, d'abord, qui a produit la Commune et la République, ça c'est très mal. Et puis aussi, ce siècle du cinéma, invention peut-être un peu diabolique aussi. Il explique que ce qui donnait l'illusion de la vie a produit l'horrible réalité de la mort. Bref, c'est une condamnation sans appel, en fait, de la modernité. Et bien sûr, le président de la République, les ministres, les républicains sortent absolument absolument outré de cette cérémonie. C'est un moment où les deux Francs auraient pu se rassembler, et au contraire, le fossé va se creuser. Ça explique ce qui va se produire ensuite, 1901 et puis 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État. On est arrivé à un point de rupture, le Concordat n'est plus applicable, il y a vraiment une cassure entre la France catholique d'une part et la France républicaine, moderniste, libre-penseuse.
Sans doute, ô maître souverain des hommes et des sociétés, vous avez voulu donner une leçon terrible à l'orgueil de ce siècle où l'homme parle sans cesse de son triomphe contre vous. Vous avez retourné contre lui les conquêtes de la science, si vaines quand elle n'est pas attachée à la vôtre, et de la flamme qu'il prétend avoir arrachée à vos mains comme le Prométhée antique. Vous avez fait l'instrument de vos représailles. Ce qui donnait l'illusion de la vie a produit l'horrible réalité de la mort. Et dans le morne silence qui enveloppe Paris et la France depuis 4 jours, il semble que l'on entend l'écho de la parole biblique. Par les morts couchés sur votre route, vous saurez que je suis le Seigneur. Dieu de nos pères, soyez bénis de ne pas avoir rejeté leurs enfants et de les avoir crus capables de payer la rançon de leurs fautes, si lourde que fût la dette et si dure que fût le paiement.
Donc finalement, cet événement n'a fait qu'aggraver la fracture religieuse que connaît la France au début des années 1900.
En effet, et c'est important parce qu'il se trouve que le gouvernement de l'époque, un gouvernement républicain, Jules Méline avec Louis Barthou au ministère de l'Intérieur, c'est un gouvernement qui a cherché un petit peu à se rapprocher de la partie la plus modérée des droites. Et donc on aurait pu peut-être assister à ce moment-là à une jonction entre les républicains les plus modérés, c'est-à-dire socialement conservateurs, et les monarchistes les moins revanchards, en quelque sorte, et avoir une majorité un petit peu de centre-droit qui se constitue malgré la distinction entre républicains et monarchistes. Mais ça bute immédiatement sur la question religieuse, et cette cérémonie le montre, d'autant que cette cérémonie ratée finalement, qui ne parvient pas à créer une unité entre Français, eh bien elle va avoir un écho non loin de là, quelques jours plus tard, au Palais Bourbon. C'est-à-dire qu'à la Chambre des députés, à 2 reprises, il va y avoir un débat tout simplement sur le caractère laïque de l'État, et on va reprocher au président de la République et au gouvernement de s'être commis dans cette cérémonie de Notre-Dame où finalement la République a été insultée. Le gouvernement va être interpellé au départ par un monarchiste. Le monarchiste interpelle sur les causes de l'incendie, l'absence de précaution, mais très vite, le débat rebondit sur toute autre chose, l'hommage aux victimes, l'immixtion de la religion dans la vie publique, et à partir de là, le débat devient totalement incontrôlable et préfigure véritablement les débats des années suivantes au moment et de l'affaire Dreyfus et de la querelle religieuse.
Le bazar de la charité, une fin de siècle enflammée. Avec Bruno Fulini, historien et auteur de l'ouvrage « L'incendie du bazar de la charité ». Michel Vinocq, historien. Archivina de l'émission « Soyez témoins » 1956, en collaboration avec Arnaud Plançon. Lecture, Thierry Beauchamp. Coordination, Christine Bernard. Le bazar de la charité, une histoire particulière. Lénora Krief, François Teste.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous serons assis aux côtés de Rosa Parks, mais c'est une autre histoire.